Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le 27 janvier marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz. Cette année, ça fait 70 ans que les troupes soviétiques de l'armée rouge ont pénétré dans ce camp mis en place en 1940 et où plus d'1,3 million de personnes ont été déportées, principalement des juifs, mais aussi des tziganes, des opposants politiques ou encore des homosexuels. Les trois camps répartis sur le site d'Auschwitz dans l'actuelle Pologne, Auschwitz I, Birkenau et Monowitz, et les fours crématoire reste parmi les emblèmes les plus tristement célèbres de l'horreur nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment rendre justice après de tels actes? Comment juger les responsables? Et pourquoi faire? Aujourd'hui, nous revenons sur le procès d'Auschwitz qui s'est ouvert en 1963 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. En décembre 1963, l'économie reprend en RFA. La guerre est finie depuis près de 20 ans et les Allemands de l'Ouest ont de nouveau les moyens de songer à leurs achats de Noël. Ce qui s'est passé sous la dictature nazie, personne n'en parle. Une chape de silence permet à la population de supporter, de continuer à vivre, sans se demander ce qu'ont fait les voisins ou la famille pendant la guerre. Mais un homme veut briser ce silence. Le procureur général de Francfort, Fritz Bauer, s'est entouré d'une équipe de jeunes juristes. Ils se sont mis en quête de rescapés, éparpillés dans le monde entier, et prêts à témoigner de ce que les Allemands leur ont fait subir. Ron Steinke, juriste et biographe du procureur général, en est persuadé. C'est grâce au travail de Fritz Bauer et son équipe que le procès d'Auschwitz peut s'ouvrir le 20 décembre 1963.
Il ne veut pas organiser ce procès parce qu'il pense que la vieille Allemagne l'a bien mérité, mais plutôt parce qu'il pense que la nouvelle Allemagne en a besoin. Il pense qu'il est nécessaire pour construire une démocratie de se confronter à ces crimes et de mettre des mots dessus.
Fritz Bauer est revenu de son exil suédois en 1949. Il parvient à faire réhabiliter les officiers exécutés sous le régime nazi pour avoir organisé l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. Fritz Bauer estime que le verdict prononcé par la justice sous le Troisième Reich n'a pas de valeur juridique, étant donné que ce régime était un état de non-droit. Plus de 360 témoins viennent à la barre à Francfort. Et pour reprendre les termes employés par le président de la Cour, leur déclaration montre au public cet enfer qui désormais sera pour toujours associé au nom d'Auschwitz. Parmi ces témoins, 211 personnes sont des survivants du camp. Encore une fois, pour Fritz Bauer, il ne s'agit pas de les venger, eux et ceux qui ont été massacrés. Non, il s'agit de raconter leur histoire pour que justice soit faite et que la société allemande, comme le reste de la communauté humaine, en tire des leçons afin de mieux construire l'avenir. D'ailleurs, quand on lui demande plus tard ce qui aura été au cœur du procès d'Auschwitz, Fritz Bauer répond « Tu dois savoir dire non ». Il veut que les Allemands prennent conscience qu'il faut parfois refuser d'exécuter un ordre si celui-ci implique un crime contre l'humanité, même si cet ordre émane de votre hiérarchie. À Francfort, 22 personnes sont sur le banc des accusés. Évidemment, il s'agit là que d'une infime partie des personnes impliquées dans la machine Auschwitz. Fritz Bauer s'est inspiré des procès de Nuremberg qui ont jugé en 1945 certains responsables du régime nazi, choisis pour incarner l'entièreté d'un système politique et social bien plus vaste. D'ailleurs, Ron Steinke rappelle qu'aujourd'hui encore, c'est comme ça que fonctionne la justice internationale. Certains individus comparaissent au nom de régimes entiers.
von Nürnberg. Die ist also sehr lebendig.
L'idée fondatrice de Nuremberg est encore en vigueur aujourd'hui, c'est-à-dire que des prévenus sont mis en examen de façon à représenter différents domaines du régime mis en cause. Prenez le Darfour par exemple, il me semble qu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont poursuivies pour un génocide qui a fait environ 300 000 morts selon les estimations. 5 prévenus, c'est rien du tout bien sûr, mais c'est un symbole. Et l'accusation se demande alors quelles sont les 5 personnes que l'on va choisir. On fait très attention à en prendre 3 de tel camp, puis 2 des rangs des rebelles et puis 1 du gouvernement. Cela est un message envoyé pour les livres d'histoire, à la conscience humaine et à tous ceux qui suivent le procès.
Mais revenons-en au procès d'Auschwitz en 1963. Robert Mulka, ancien adjudant du commandant en chef du camp, Rudolf Höss, est l'accusé principal. À ses côtés dans le box, des accusés, des médecins, des pharmaciens, des gardes du camp, Robert Mulka choisit, comme les autres, de tout nier en bloc et de se taire. Il affirme ne rien avoir jamais su du million de personnes assassinées dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Et au 79e jour d'audience, un témoignage bouleverse la cour. C'est celui d'un ancien prisonnier, Josef Gluck, qui réagit aux dénégations des accusés.
Je dois vous expliquer que dès le deuxième jour passé dans le camp, je savais déjà tout. Et je n'étais pas le seul. Il y avait ce jeune garçon. Il avait 16 ans. Il s'appelle Andreas Rapaport. Il m'a crié « Tonton, je sais que je vais mourir. S'il te plaît, dis à ma mère que j'ai pensé à elle jusqu'au bout. » Ce garçon savait ce qui nous attendait. Et ces messieurs-là ne savaient rien.
Les prévenus ne réagissent pas. Le 19 août 1965, au bout de 20 mois de procès, Robert Mulka est condamné pour avoir participé à des meurtres collectifs dans au moins 4 cas avérés à 14 ans de prison. Ses co-accusés sont pour la plupart soit déchus de leurs droits civiques, soit condamnés à la prison à perpétuité. Les historiens estiment que près de 7000 membres de la SS ont servi à Auschwitz. Depuis lors, 50 ont comparu en justice. Certaines enquêtes continuent d'être instruites à l'encontre d'anciens nazis 70 ans après la fin de la guerre. Fritz Bauer a été déçu du procès d'Auschwitz. Pour lui, le fait que les médias aient dépeint à l'époque les prévenus comme des monstres sanguinaires a permis aux Allemands de prendre leur distance et de ne pas assumer leur part de responsabilité. Monica Flores n'est pas du même avis. Elle pense, elle, que le procès Auschwitz a tout de même fait changer la société allemande. C'était la première fois depuis 1945 que l'on reparlait ouvertement des crimes commis sous le régime nazi.
Der Frankfurter Auschwitz-Prozess, der begann die Debatte um den Holocaust, eine öffentliche Debatte um den Holocaust in Deutschland.
Le procès d'Auschwitz à Francfort a lancé le débat, un débat public sur l'Holocauste en Allemagne. Ce procès a montré que la responsabilité des crimes nazis ne revenait pas seulement à une élite dirigeante, mais que des gens qui se mouvaient librement dans la société étaient aussi impliqués. Et ça, ça a choqué. Que faire des coupables ? Est-ce que nous voulons vivre dans une société dans laquelle les coupables sont parmi nous, sans avoir à rendre de compte ?
Wollen wir mit Menschen in einer Gesellschaft leben, die sich die solche Verbrechen begangen haben und die dazu gar nicht zur Rechenschaft gezogen wurden ?
Monica Flores est commissaire de l'exposition Auschwitz-Majdanek devant la justice, qui fait partie désormais de l'exposition permanente du musée juif de Berlin.
Cette discussion est universelle. Comment traiter des criminels qui ont commis des atrocités sous une dictature? On peut rapprocher cela des discussions au Cambodge ou en Espagne sur le régime de Franco.
Ça fait maintenant un petit moment que je ne vous ai plus recommandé de livres à lire et il est grand temps de s'y remettre. Cette semaine donc, en lien avec notre sujet, « La mort est mon métier » de Robert Merle, achevé en 1952 et paru chez Gallimard. Il s'agit de faux mémoires d'un dénommé Rudolf Lang, un personnage fictif, mais qui fait directement allusion à Rudolf Höss, le commandant du camp d'extermination d'Auschwitz. Ce roman tente d'expliquer comment un homme ordinaire peut être amené à commettre des atrocités comme celles commises par les nazis. Voici un extrait de la préface de « La mort est mon métier ». Elle a été écrite par Robert Merle lui-même en 1972, soit 20 ans après la première parution de son ouvrage.
Il y a bien des façons de tourner le dos à la vérité. On peut se réfugier dans le racisme et dire « Les hommes qui ont fait cela étaient des Allemands ». On peut aussi en appeler à la métaphysique et s'écrier avec horreur, comme un prêtre que j'ai connu. Mais c'est le démon, mais c'est le mal. Je préfère penser, quant à moi, que tout devient possible dans une société dont les actes ne sont plus contrôlés par l'opinion populaire. Dès lors, le meurtre peut bien lui apparaître comme la solution la plus rapide à ses problèmes. Ce qui est affreux et nous donne de l'espèce humaine une opinion désolée, c'est que, pour mener à bien ses desseins, une société de ce type trouve invariablement les instruments zélés de ses crimes. C'est un de ces hommes que j'ai voulu décrire dans « La mort est mon métier ». Qu'on ne s'y trompe pas, Rudolf Lang n'était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l'échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. Il y eut, sous le nazisme, des centaines, des milliers de Rudolf Lang, moraux à l'intérieur de l'immoralité, consciencieux, sans conscience, petits cadres que leur sérieux et leur mérite portaient aux plus hauts emplois. Tout ce que Rudolf fit, il le fit non par méchanceté, mais au nom de l'impératif catégorique, par fidélité au chef, par soumission à l'ordre, par respect pour l'État. Bref, un homme de devoir. Et c'est en cela, justement, qu'il est monstrueux.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Zara Judith Hoffmann pour ses sons. Pour télécharger ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.de/français à la rubrique « Nos podcasts ». Et puis pour nous écrire, une seule adresse français@dw.de sans la cédille à français comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.